Accent d'Europe, Juliette Garbrand.
Bonjour et bienvenue dans Accent d'Europe. Une commission d'enquête de l'ONU a accusé ce matin Israël de crimes contre l'humanité. Extermination, transfert forcé, torture à grande échelle. En réponse à l'attaque terroriste des islamistes du Hamas, qui a fait 1200 victimes en Israël le 7 octobre, qualifiée de crime de guerre, les forces israéliennes ont tué plus de 37 000 Palestiniens dans la bande de Gaza et les opérations se poursuivent. Dans les universités européennes, la mobilisation se poursuit elle aussi contre la guerre à Gaza. En Roumanie, les étudiants ont exprimé leur solidarité avec les civils palestiniens. Ils ont même, fait rare dans le pays, installé fin mai un campement dans les jardins de l'université de Bucarest. C'est un reportage de Léonard Vincent.
Sur le trottoir du boulevard Pandouri, qui longe l'université de Bucarest, ils sont une poignée. Ils ont des bouquets de fleurs à la main et des pancartes en solidarité avec les victimes de Gaza. Ils attendent les passants et leur tendent une fleur en leur proposant de la déposer sur les photos des morts qu'ils ont alignées par terre. Mais l'événement majeur ne se déroule pas ici, dans le vacarme des voitures. Il se trouve sur le campus, au calme, dans le jardin, où une vingtaine de jeunes sont assis dans la pelouse, autour des tentes, des drapeaux et des rubans noirs, verts, rouges et blancs, aux couleurs de la Palestine. Parmi eux, Matei, un jeune étudiant en veste militaire.
Nous exprimons notre solidarité avec la cause palestinienne. Nous exprimons notre solidarité avec les étudiants du monde entier qui veulent que ça change. Nous rassemblons ici tous ceux qui ont participé aux manifestations pour soutenir Gaza. Pour l'instant, tout s'est bien passé.
La police de Bucarest leur a simplement demandé d'éviter tout vandalisme et par exemple de ne pas suspendre le drapeau palestinien à la statue qui trône au milieu des arbres. Mais tout ici est bon enfant. Sous le feuillage, on fabrique des pancartes, on parle politique, comme dans toutes les universités du monde. Roman fait visiter le camp de tente aux étrangers.
Ici, nous avons un atelier où presque tous les jours, nous discutons des slogans. Nous fabriquons des pancartes pour les événements qui viennent. C'est ici qu'on a fabriqué les pancartes pour la manif que vous avez vue sur le boulevard en arrivant.
Les revendications des étudiants, ici comme ailleurs, s'adressent d'abord à la direction de la faculté, comme l'explique Matei.
Nous demandons à l'université de reconnaître ses liens avec les institutions israéliennes qui sont liées au génocide. Officiellement, la direction nous répond qu'elle souhaite rester neutre, apolitique. Nous sommes encore en train de discuter des suites à donner à cette réponse.
Rappelons que la Roumanie a été l'un des premiers pays du monde à reconnaître l'autorité palestinienne après la déclaration d'indépendance de novembre 1988. Et qu'il existe une ambassade de Palestine à Bucarest, dans une rue calme du quartier de Boranti.
Ce mercredi, la police est intervenue à l'université de Varsovie. Hier, les étudiants qui manifestaient depuis le 24 mai ont pris d'assaut le campus et en ont bloqué l'accès. Ils exigent notamment la rupture de la coopération avec les institutions, y compris les universités israéliennes, liées à l'action militaire d'Israël. On retrouve les mêmes revendications en Irlande, où les étudiants du prestigieux campus de Trinity College ont été parmi les premiers à obtenir gain de cause dans un pays, il faut dire, qui reconnaît l'État palestinien. À Dublin, les précisions de Clémence Pénard.
À moins d'être étudiant ou professeur, impossible d'entrer sur le campus en plein centre-ville de Dublin. D'habitude ouvert au public, le site a été bloqué plusieurs jours de suite. En plus d'une quarantaine de tentes installées sur les pelouses de l'université, les étudiants avaient également bloqué, à l'aide de bancs, la bibliothèque qui contient le livre de Kells, un célèbre manuscrit enluminé du Moyen-Âge. Située à l'intérieur du campus, la bibliothèque est une véritable attraction pour les touristes à Dublin. Sa visite rapporterait chaque année environ 10 millions d'euros de revenus à Trinity College. Un bon moyen donc de faire pression sur la direction. Les étudiants exigeaient que Trinity coupe tous ses liens avec Israël. Pour mettre fin au campement. L'université a déclaré, entre autres, avoir lancé un processus pour cesser de financer des entreprises qui ont des activités sur le territoire palestinien occupé et figurent sur la liste noire de l'ONU. Suite à cette mesure, les étudiants ont parlé d'une victoire partielle. Beaucoup ont salué la décision de l'université de traiter le campement comme une affaire interne plutôt que policière. Et en effet, tout s'est déroulé sans violence, contrairement à ce que l'on a pu voir ailleurs. Mais Trinity a tout de même infligé une amende à son syndicat étudiant, et pas des moindres, 214 000 euros pour la perte de revenus engendrée par les récents blocages de l'accès aux livres de Kells. Quant à l'université UCD, University College Dublin, un campement y a aussi été établi le 11 mai au bord du lac du campus, mais les discussions semblent dans une impasse. Et le ton monte la semaine dernière, des slogans tels que « le sionisme c'est du terrorisme » ou encore « mort au sionisme » ont été écrits à la craie sur les murs de l'université.
En Allemagne, la situation est beaucoup plus tendue. Les étudiants qui se mobilisent pour Gaza doivent souvent se battre pour avoir le droit de s'exprimer. À Beyrouth, une association estudiantine a été poursuivie en justice après avoir organisé une conférence pour la paix. Et la police intervient régulièrement et parfois brutalement pour déloger les campements d'étudiants. L'histoire de la Shoah pèse lourd dans le pays, au point de rendre inaudible toute critique du gouvernement Netanyahou. Mais les autorités sont aussi extrêmement vigilantes sur les dérapages antisémites. La présidente de l'Université technique de Berlin s'est retrouvée au centre d'une polémique après avoir liké un tweet douteux sur Benjamin Netanyahou. L'opposition a même abordé le sujet au Parlement. Les explications de notre correspondante à Berlin, Delphine Nerbollier.
Géraldine Rauch est à la tête de l'Université technique de Berlin depuis 2022. Cette mathématicienne de formation fait la une des journaux depuis qu'elle a liké, comme on dit, trois messages sur le réseau social X. Des messages jugés anti-israéliens, voire antisémites. L'un d'entre eux montre une manifestation en Turquie avec, sur les pancartes, la photo du Premier ministre Netanyahou marquée d'une croix gammée. Face au tollé, les représentants de la communauté juive en Allemagne ainsi que le maire de Berlin ont demandé la démission, voire le licenciement de Géraldine Rauch. Celle-ci a refusé de quitter son poste et la semaine dernière, elle a ouvert une procédure disciplinaire contre elle-même afin de pouvoir se défendre. C'est chose faite. Ce lundi, la direction de l'université a tranché. Géraldine Rauch restera à son poste, bien qu'elle ait causé beaucoup de tort à l'institution. Elle aurait toutefois fait part de ses profonds regrets et démontré ne pas avoir de préjugés antisémites. Dans un an, elle devra faire la preuve de son action contre le racisme et l'antisémitisme. En revanche, elle ne regagnera pas son poste au sein d'une instance gouvernementale chargée de conseiller le chancelier sur les questions d'innovation et de technologie. Elle en a été exclue la semaine dernière par Olaf Scholz en personne. Si Géraldine Rauch reste donc en poste à l'université, le débat de fond, lui, est loin d'être clos. Les représentants de la communauté juive jugent que la haine envers Israël est minimisée dans le pays et notamment dans les universités. Les manifestants pro-palestiniens sur les campus dénoncent, eux, un soutien trop unilatéral des autorités allemandes envers le gouvernement israélien. En raison de sa responsabilité dans la Shoah, l'Allemagne est en effet l'un des alliés les plus fidèles d'Israël.
En Turquie, les atteintes du gouvernement Erdogan contre l'enseignement laïque inquiètent de plus en plus de monde, à commencer par les enseignants. Les nouveaux programmes scolaires dévoilés il y a quelques semaines enjoignent à ces derniers d'éduquer une jeunesse, je cite, « morale et vertueuse à grand renfort de références religieuses ». Dans ce pays à très large majorité musulmane, la laïcité est pourtant inscrite dans la Constitution. Pour ses opposants, l'objectif du président turc est avant tout politique. C'est un reportage à Istanbul d'Anne Andlauer.
À l'ombre d'une pancarte, en cet après-midi de manifestation, Yasemine cherche du regard ses collègues. Lunettes rondes, foulard rose, Yasemine enseigne depuis plus de 20 ans dans des écoles primaires. Presque toute sa carrière, elle l'a faite sous le gouvernement du Parti de la Justice et du Développement, l'AKP de Recep Tayyip Erdogan, au pouvoir depuis 2002. Si elle manifeste aujourd'hui, c'est que les nouveaux programmes scolaires, dévoilés fin avril pour être mis en œuvre dès la rentrée prochaine, l'inquiètent énormément.
Chaque année, les programmes s'éloigne de plus en plus de la laïcité. Je ne suis absolument pas contre la religion, je respecte les croyances de chacun. Mais que la religion imprègne comme ça de plus en plus notre enseignement au détriment de la science et de la laïcité, c'est inacceptable.
Les nouveaux programmes scolaires turcs suscitent depuis des semaines une levée de boucliers chez une partie du corps enseignant. Ils ambitionnent de créer un modèle basé sur trois piliers, les vertus, les valeurs et l'action, et de former, je cite, des générations morales et vertueuses qui ont pour idéal de faire le bien et d'être utiles à la nation. De l'école maternelle au lycée, chaque cours est censé promouvoir un certain nombre de valeurs présentées comme nationales et spirituelles. Par exemple, les cours d'histoire au lycée sont conçus pour encourager, je cite, l'honnêteté et le patriotisme. Ceux de géographie aussi doivent défendre le patriotisme, le respect et le sens des responsabilités. Dans un rapport paru début mai, l'Initiative pour la réforme de l'éducation, un think tank de référence, s'inquiète de la subjectivité de ces termes et d'un risque d'endoctrinement. Le chercheur Kayıhan Kesbiç est l'un des auteurs du rapport.
Quand vous posez comme principe que la Turquie est une culture nationale et que les valeurs et la moralité de cette culture doivent être transmises aux enfants sans la moindre possibilité de remise en cause, vous défendez une culture nationale non pas pluraliste mais monolithique et centralisée. C'est l'un des points que nous trouvons problématique. Car utiliser l'école pour promouvoir cette culture nationale unique, c'est créer un environnement dans lequel les enfants ne voient pas et ne comprennent pas la pluralité, les différences. Cela peut être une menace pour la liberté d'opinion, de religion ou de croyance, en même temps qu'une menace pour la laïcité.
Les opposants au gouvernement l'accusent d'imposer aux enfants son idéologie islamo-nationaliste. Et de le faire non seulement en utilisant les enseignants, mais aussi des imams qui en Turquie sont des fonctionnaires. Or, depuis la dernière rentrée, des prédicateurs musulmans interviennent au sein des écoles, ce qui est totalement inédit dans ce pays où la laïcité est un principe constitutionnel. Ces imams jouent un rôle de conseiller spirituel dans le cadre d'un protocole qui permet aussi, par exemple, d'emmener les classes à la mosquée, y écouter des prêches. Yachar, un enseignant à la retraite, n'y va pas par quatre chemins. Il affirme que le président Erdogan veut abolir l'école laïque créée il y a 100 ans par le fondateur de la République, Mustafa Kemal Atatürk.
Si vous mettez des théologiens dans les écoles qui devraient être réservées aux enseignants, cela fait courir un risque grave à l'avenir de ce pays. Les jeunes d'aujourd'hui, nos enfants, n'apprennent plus les principes d'Atatürk. Atatürk a même quasiment disparu des programmes.
Ces critiques ne sont pas nouvelles. Recep Tayyip Erdogan, qui se présentait il y a 20 ans comme un démocrate, soucieux de mener son pays vers l'adhésion à l'Union européenne, s'emploie depuis le début des années 2010 à éduquer ce qu'il appelle une génération pieuse. En 2012, en plus de cours obligatoires de culture religieuse, son gouvernement a introduit des cours sur le Coran et la vie du prophète, facultatifs en théorie mais en fait bien souvent imposés aux élèves. Tayyip Erdogan a aussi généralisé les écoles de prédicateurs dont il est lui-même diplômé. Leur nombre a été multiplié par 4 en 20 ans pour représenter aujourd'hui 13% des écoles. Le nombre de leurs élèves a aussi beaucoup augmenté, 10% du total désormais, contre 2% il y a 20 ans, même s'il tente à baisser ces dernières années. Pour Chayan Çalık, représentant à Istanbul du syndicat d'enseignants de gauche Eğitim Sen, l'objectif du président est moins religieux que politique.
Le pouvoir, qui a considérablement appauvri la population, cherche à créer du consentement. En utilisant le discours de l'islam politique, il appelle ouvertement les citoyens à la patience, à se contenter de ce qu'ils ont et même à se montrer reconnaissant du peu qu'ils ont. Ça, c'est l'objectif à court terme. À plus long terme, le pouvoir cherche à imposer une façon de vivre et de penser qui tourne entièrement autour de la religion, des règles et des rituels religieux. Ceci pour reformater la société, la transformer en base électorale naturelle du pouvoir politique et dans le même temps pour réduire au silence ceux qui défendent l'éducation laïque.
Les débats au sujet du système éducatif et des atteintes à la laïcité ont cependant mis en lumière de profondes divisions au sein du corps enseignant turc. Si la plupart des syndicats ont émis des réserves, voire de lourdes critiques sur le contenu et la méthode, le principal syndicat, Eğitim Birsen, proche du pouvoir et qui représente environ un tiers des enseignants syndiqués, réclame à l'inverse davantage de références religieuses, et ce, dès l'école maternelle. Gaslighting, I'm not biting. You can't rewrite my history. You're trying to persuade me, you'd never hurt me. All the pain I felt wasn't
Et on part pour Londres où les législatives approchent. Elles ont lieu le 4 juillet et l'opposition travailliste, écartée du pouvoir depuis 2010, part largement gagnante. D'autant que le Premier ministre Rishi Sunak, après un début de campagne jugé calamiteux, y compris dans son propre parti, doit faire face à présent à la concurrence surprise du leader d'extrême droite Nigel Farage. Et les critiques pleuvent sur les conservateurs au pouvoir. Ils ont même été accusés de « gaslighting ». Ce mot désigne d'ordinaire une forme d'emprise dans la sphère privée, mais les responsables politiques semblent l'avoir adopté. On retrouve à Londres notre correspondante Marie Billon pour en parler. Bonjour Marie.
Bonjour Juliette.
Rappelez-nous d'abord la définition de ce mot.
Alors, le gaslighting, c'est une manipulation psychologique dans la durée au point que la victime commence, comme l'explique un dictionnaire, à remettre en question la validité de ses pensées, de sa perception de la réalité et de ses souvenirs. Le mot vient de la pièce de théâtre américaine des années 30, Gaslight. C'est l'histoire d'un homme qui essaie de rendre folle son épouse, ou plutôt de lui faire croire qu'elle est folle. Et pour cela, il joue avec l'intensité de l'éclairage au gaz de la maison, Gaslight, tout en lui disant qu'elle perd l'esprit et que la luminosité ne change pas.
Et les responsables politiques, donc, l'utilisent de plus en plus ?
Absolument, notamment Rachel Reeves, qui est la chargée de l'économie et des finances chez les travaillistes, donc l'opposition de gauche, elle a fait un discours début mai.
Lorsque les Britanniques entendent des ministres leur dire qu'ils n'ont jamais été aussi bien lotis, qu'ils devraient voir les choses du bon côté, tout ce qu'ils entendent, c'est un gouvernement qui se berce d'illusions et qui est totalement déconnecté des réalités. Les conservateurs gaslight le public.
Alors c'est vrai que Rishi Sunak, le Premier ministre, répète que l'économie va mieux et que l'inflation a ralenti significativement, mais les Britanniques ne le ressentent pas. Le coût de la vie reste très élevé. Ce que le chef de gouvernement dit, c'est important, c'est qu'il sait que l'amélioration de l'économie nationale ne se ressent pas encore dans les foyers. Et c'est son argument de campagne, l'économie redécolle tout juste, alors réélisez-moi pour que ça continue. Donc quand Rachel Reeves accuse le Premier ministre de faire croire aux Britanniques que tout va bien et donc de gaslighter le public, de le manipuler, c'est exagéré.
Pourquoi ce mot, Marie, assez rare en fait, est-il devenu à la mode pour parler de mensonges ?
Robbie Morgan, professeur d'éthique à l'université de Leeds, a une théorie.
Il y a l'attraction de la nouveauté. Les gens sont habitués à entendre que les politiciens mentent. Et malheureusement, à force, cette accusation a perdu de sa puissance. Employer gaslighting renouvelle et renforce cette accusation.
Mais cet usage qui se répand sur les réseaux sociaux ou dans la sphère publique modifie le sens du mot, si précis et si fin, ce que dénonce Robbie Morgan.
Gaslight est désormais utilisé pour désigner de façon générale le fait de mentir ou de dire des contre-vérités. Et c'est inquiétant car du coup, il n'y a plus de mots précis pour désigner ce type particulier de manipulation mentale. Or, le fait de nommer un phénomène permet de mieux le comprendre et de mieux en appréhender la réalité.
Et c'est important de ne pas oublier le sens premier du mot parce qu'en politique aussi, on le retrouve dans des affaires très graves.
Oui, le 20 mai, ce mot a été utilisé par une victime du scandale du sang contaminé. Ce jour-là, une commission indépendante avait confirmé que le gouvernement et les autorités médicales n'avaient pas été honnêtes avec les malades.
We've been gaslit for generations. This report today brings an end to that.
Nous avons été gaslightés, manipulés pendant des générations, a dit Andy Evans, le président du Tainted Blood Campaign Group. Robbie Morgan estime que cette utilisation-là est légitime.
Les victimes de ce scandale ont rapporté que certains hommes politiques et professionnels de la santé leur avaient dit que leurs symptômes résultaient d'une autre maladie ou qu'ils avaient déjà été informés du problème, même si ce n'était pas le cas. Il semble donc plausible qu'on ne se soit pas contenté de mentir aux gens, mais qu'on les ait volontairement amenés à douter de ce qu'ils avaient vécu et de ce qu'ils savaient.
Rappelons que les victimes ont contracté l'hépatite B ou bien le VIH après transfusion de produits sanguins non vérifiés.
Merci Marie Billon, à bientôt. À la réalisation d'Accent d'Europe, Françoise Grelot. On se retrouve demain, même heure, même fréquence, et d'ici là sur l'appli Pure Radio et sur RFI.fr. Bonne soirée à l'écoute de la Radio du Monde.